RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec qui? Avec Jonathan Macardy, tiens. Ouais. Mon pote, et avec Ali Bénard.
Et on va le revoir en Ligue 1 l'année prochaine, Fred Antonetti.
Tu sais quoi, j'espère.
Ouais, j'espère. Ouais. C'est sérieux ce qu'il fait avec Metz, hein?
Oui, oui, c'est sérieux.
Ah, on va revoir Antonetti, on va revoir mon petit chouchou Jean-Marc Furlan, ça va être sympa l'année prochaine.
En espérant également que sa situation personnelle se stabilise et que tout aille pour le mieux chez Antonetti. Je vous rappelle les résultats de ce samedi, 31e journée de Ligue 1. Dijon s'est imposé 3-1 à Lyon cet après-midi. Guingamp-Monaco, un but partout. 2-2 entre Amiens et Saint-Etienne. 3-3 entre Angers et Rennes. Et puis Nîmes qui s'est imposé 2-0 face à Caen. On va s'arrêter, les gars, sur la course pour le maintien. Ouais. Je vous rappelle, tiens, le classement entre, allez, la 14e et la 15e place. 14e, on a Toulouse avec 32 points. 15e, Nantes avec 31 points. 16e, Monaco avec 31 points. Amiens, 17e avec 31 points. Et puis dans la zone rouge, enfin, barragiste pour l'instant, on a 18e, Dijon avec 24 points. 19e et 20e, on a Caen et Guingamp avec 23 points. Guingamp qui jouait face à Monaco. Guingamp qui a longtemps mené face à Monaco grâce au but des Bois et Bois à la 23e. Et puis c'est Jovetic.
Bon petit gazon.
En toute fin de match qui a égalisé Jovetic. Deuxième but de la saison seulement pour l'attaquant monténégrin. Alors c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué non plus. Il avait plus marqué depuis la première journée. C'était face à Nantes. C'était un match un peu bizarre d'ailleurs. Monaco qui a pris ce but très tôt, qui a beaucoup poussé, qui a pas réussi. Ils ont eu du mal. Tes anciens.
Là complètement, c'est les deux équipes qui revient à mon fameux point qui prend tous ces équipes là, puisqu'on m'avait dit qu'on
avait 3 points. Oui, c'est vrai que t'avais 3 points, t'en avais
6 points si tu veux un tout point.
Comment il nous embrouille? Et le mec, c'est
qui?
Mathématicien.
Au lieu de parler de Lyon, moi je parlais de Dijon. Non, mais pour te dire, c'est-à-dire qu'on parle là, tu prends des points de Toulouse jusqu'à Guingamp, ça va être ça jusqu'au bout.
Putain, Toulouse, j'avais oublié qu'ils étaient en Ligue 1 quoi, tellement
ils ont 32 points Toulouse, Nico.
Ouais.
Et il reste encore 7 matchs.
Ouais.
Ça fait 21 points.
21, ouais.
21 points, c'est énorme.
Ouais.
Et là, jusqu'au bout, ça va être ça à chaque journée. Alors là, Guingamp se voyait vraiment faire le coup dans le sens où ils allaient prendre les 3 points jusqu'au dernier moment. Et le problème, c'est qu'au Monaco, on n'arrivait pas à enchaîner 3-4 passes quand t'as pas ni Falcao comme point d'appui et ni Fabregas. Le pauvre Martins, c'est Ronny Lopez, on le reconnaît même plus.
Ouais.
Il fait une fin de saison, Ronny Lopez.
Martins, il était très frustré, on l'a vu dans le match. Hein,
ah oui, il était agacé.
Ouais, limite vénère.
Parce qu'il se débrouillait un petit peu tout seul. Et le problème, il n'y avait plus du tout. Fabregas, il manque trop au début des actions. Et Falcao, comme point d'appui, aide énormément.
Bien sûr.
Les Martins, les Golovin et les Ronny Lopez à faire la différence. Et là, le problème de Guingamp, c'est que tellement ils avaient ce 1-0 et qu'ils voulaient garder ce score-là, qu'ils en ont oublié que c'est important d'attaquer
surtout
pour mettre ce deuxième but.
Il y avait la place pour le mettre, le deuxième but.
Et c'est ça le problème.
Monaco a un petit matelas, mais...
Ah, il est très petit.
Défensivement.
Très petit.
Tu sens que c'est hyper friable. Les deux derrière, là, ils ont fait leur temps, Jamerson Glick, mais je comprends même pas pourquoi il continue et qu'il essaie pas de relancer le petit jeune, là, le frère de Badiachil. Pourquoi?
Ah, il joue tout le temps, Badiachil.
Ouais, mais là, pourquoi il les met les deux sur le match, tu vois?
Ben, j'ai vu le dernier match contre Caen, il marchait, Badiachil.
Ah ouais?
J'étais au stade.
Pas souvenir, mais...
Le truc est quand même très bizarre avec Monaco.
Quand même pour Monaco.
Monaco est resté sur cette défaite face à Caen, et puis juste avant, ils ont été capables de taper Lille, de faire match nul contre Bordeaux, bon, ça, ok. Ils avaient battu Lyon pas si longtemps que ça avant également.
Et oui.
C'est vraiment bizarre ce qui se passe avec Monaco. Ben,
c'est en dents de scie. Après, il y a eu du mieux depuis que Jardine est arrivé. Tu sais, je l'ai bien dit. Mais, et Ali l'a très bien souligné, quand il te manque Fabregas et Falcao, tu perds quand même la moitié de ton potentiel de création dans le jeu. Donc là, ça a été hyper brouillon, à l'image du but qu'ils mettent en fin de match, parce que le but est brouillon. C'est un but de souillon, comme le jeu proposé par Monaco ce soir. Et je pense que Ali, je suis rejoint Ali là-dessus aussi. Guingamp aurait dû mettre le pied sur l'accélérateur, parce que cette défense monégasque, tu appuies un petit peu et tu marques. C'est sûr.
Beaucoup d'espace dans les 20 dernières minutes, ils n'en ont pas profité. Et le problème, c'est que Monaco, on disait, ben ça y est, ils sont soignés. Mais moi, je pense que jusqu'à la fin de saison, ils auront encore des problèmes. Et là, on parle de l'extérieur, mais c'est surtout à domicile qu'ils auront des problèmes.
Tiens, on va accueillir Pierre, qui est supporter de Guingamp. Et ben, il est déçu, justement, Pierre, après ce match nul entre Guingamp et Monaco. Salut, Pierre.
Salut, les gars.
Salut, Pierre.
Ah, Pierre ou quoi?
C'est le même Pierre de la Coupe de la Ligue de samedi dernier qui a sa copine est partie voir le match chez le voisin. Rappelez-vous les gars.
Ah.
Et alors au final,
elle est restée chez le voisin.
Et alors du coup bah non, quand je suis rentré dans le lit, elle était là encore, donc ça va.
Mais qui dit qu'elle n'avait pas été chez le voisin?
Ça ça veut rien dire. J'ai pas envie de niquer ton délire, mais
est-ce qu'elle t'a fait l'hôtel du cul tourné? C'est ça qu'il faut savoir.
Oui, j'ai dormi. Par contre bah oui, finale de la Coupe de la Ligue oblige, j'ai dormi à l'hôtel du cul tourné, Jonathan. Désolé.
Ceci veut peut-être dire cela.
Merci de nous avoir appelé Pierre et de nous avoir donné des nouvelles en tout cas.
On l'embrasse hein, ta copine. Moi je l'embrasse, monsieur, le bonjour de ma part.
Tous les supporters angevins et amiennois, parce que j'ai dit Shake and Dog jouer à, comment dire, à Amiens. Excusez-moi, c'est mon côté breton qui est ressorti. pour le match de ce soir, ouais, je pense qu'on a la malchance du mec qui, enfin, du club qui va descendre cette année, quoi.
Je pense.
Franchement, moi j'ai vu mon club en 2010 jouer avec la peur au ventre les 7-8 derniers matchs qu'on a eu à jouer. C'est la même chose quoi. Enfin,
c'est pourtant il y a du contenu, tu vois. C'est pas, enfin, tu sens que c'est jouable quand tu vois l'équipe jouer, non?
Ouais, c'est jouable, mais on a encore cette âme friable. C'est ça, c'est la malchance du club qui va se faire engamander à la fin de la saison quoi. Enfin, c'est dommage quoi. Enfin, après s'il y a un mec qui peut nous aider dans cette lutte pour le maintien, c'est bien Gourvennec quoi. Enfin, je vois pas d'autre homme
Pierre,
nous aider quoi. Enfin,
le vrai coup dur, je pense, c'est d'avoir perdu Lucado dans ce genre de match, d'avoir un mec comme ça qui est capable de mettre la semelle, qui a la niaque, qui transmet son état d'esprit de combattant aux autres. Ça déjà c'est une grosse perte et c'était vraiment la grosse tuile, on l'avait dit quand la blessure est arrivée. Après, alors c'est vrai que du point de vue mathématique, enfin les barrages sont toujours accessibles.
Ça reste jouable. Bah oui, c'est sûr.
Mais quand tu regardes, en fait, moi ce qui m'inquiète, c'est ce que tu as dit en fait, qui je trouve très juste, c'est cette espèce de frilosité qui en parle le club. Là ce soir, le match tu peux le gagner 2-3-0 si tu mets ce qu'il faut. Parce que Monaco était très prenable derrière. Tu l'as très bien dit Ali, il y avait des espaces, des trous béants dans la défense monégasque. T'as les joueurs pour aller mettre les buts. Mais je pense que c'est une équipe qui est traumatisée, je sais pas si c'est le terme qui est juste, mais qui est apeurée.
Je vais être très impopulaire, mais comment dire, Sorbon et Carbrat, les gars, ça commence à devenir difficile. Ah, après, Carbrat est toujours, aux commandes et tout ça, mais bon, ça reste compliqué.
Pourquoi tu parles de Carbrat ce soir?
Non, il parle ses derniers
pourquoi
matchs.
Pourquoi tu parles? Ah, tu parles, ok, parce que
c'est les derniers matchs. Ouais.
Ces derniers matchs, mais bon. Ce qui t'a permis de te maintenir toutes ces années, c'est quand le duo était bien. Est-ce que le duo est en pleine forme?
Ça
peut lui arriver d'être en méforme les deux en même temps.
Mais moi, c'est pas que je pointerais du doigt. Moi, je trouve que le point faible de cette équipe guingampaise, maintenant que t'as plus Lucado, c'est au milieu de terrain. Je suis pas convaincu par Didier Ndong.
Après, moi,
je suis pas convaincu par la complémentarité.
Pierry avec Blas, ça combine bien.
Mais je comprends pas pourquoi Ndong est toujours à autant de temps de jeu.
Après Pierre, il a un peu raison aussi. Guingamp, ça reste la pire attaque de Ligue 1 quand même.
Défense.
Ouais, mais au milieu, justement, je pense que c'est pas juste la faute des
aussi, comme ça.
Non mais Nico, c'est pas juste. Je pense pas que ce soit juste de la faute de la charnière centrale. Je pense qu'au milieu, ça fait pas assez de protection, sauf pas assez de protection à la défense. Et donc parfois dans ses placements, je le trouve vraiment ultra hasardeux. J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait.
Non mais la frilosité d'une équipe, tu sens que tout le monde n'est pas bien. Et ce qui permettait de rester un petit peu la tête au-dessus de l'eau, c'est tu vois, c'est ça qui t'aidait énormément.
Aussi, c'est vrai.
C'est Marcus qui garde les ballons, qui fait la différence, qui fait peur à la défense, qui fait reculer l'adversaire. Heureusement, et tu le ressens quand il joue pas.
Après, faut pas se leurrer. Hein. Je pense que quand on va descendre en Ligue 2, enfin si on descend en Ligue 2,
il va partir.
C'est sûr.
C'est sûr.
Même si tu restes en Ligue 1, qu'il arrive, il s'en va. Hein. Oui. Même si tu restes, ça va être compliqué.
Tu lui fais tes adieux, profite bien parce que.
Ouais, non, il restera pas.
J'avais juste une question pour John. Comment dire, ultra USC. Qu'est-ce que tu penses du prochain match qui se profile, Cormier-Lesnar?
Alors, je sais pas. Moi, je vais répondre quand même. Je réponds en 30 secondes. Je pense pas que ça se fera. Cormier-Lesnar. Et puis, si ça se passe, ça sera un freak show. Un combat totalement inintéressant. Moi, je suis comme
Cormier.
Ce que je veux voir, par contre, si ça se passe, je signe tout de suite, c'est Daniel Cormier contre John Jones, le troisième combat, mais en poids lourd. Et là, ça serait exceptionnel. Et juste petite parenthèse, j'en rase les deux équipes de RMC Sport 4.
Ouais.
Normalement, John Jones, c'est moi, je le maintiens.
J'embrasse toutes les équipes du RMC Sport 4 parce que la semaine prochaine, il y a une carte en direct sur nos chaînes avec Max Holloway. Ah ouais. On est là, Justin Poirier et Izzy Adesanya contre Kelvin Gastelum qui va être extraordinaire.
Super.
Surtout Justin.
Merci bizarre. Pierre d'avoir été avec nous. Salut, bisous à ta femme.
Merci. Ça fait un moment que je l'ai pas vu.
Gros bisous.
C'est que toujours ça.
Ciao.
Comment compte ça fait une honte. Parce qu'ils vont tiens de te péter la gueule tiens pour en solidarité à Pierre.
Que je sois plus costaud que toi. que je sache me battre, que la taille de mes bras fasse la taille de tes jambes, je sais pas, au choix, choisis.
Mon pote, même avec mes croisés, je t'en colle un, tu vas pas comprendre.
La baffe, elle est forcée du daron portugais, là, tu sais. Caralho!
Non, c'est ça. Que le revers. C'est juste le.
Le revers de main.
C'est que le revers. Hey, Erwan, supporter de Monaco, est avec nous. Salut, Erwan.
Bonsoir, les gars.
Salut, Erwan. Rassure-moi, déjà d'entrée, tu t'en fous de l'UFC, toi.
Ouais, je m'en fous.
Bon, tu peux rester alors.
Non, tu t'en vas.
Non, ce qui l'intéresse, c'est Monaco. Salut. Surtout. Il a des choses à dire, moi, je crois.
Ah, c'est bizarre que ça soit Erwan qui soit supporter de Monaco quand on parle de Guingamp.
Voilà. Ah, j'aurais pu être supporter de Guingamp.
Exactement.
Pourquoi t'es d'où, Erwan?
Paris, mais originaire de Lannion.
D'où ça?
Lannion.
Lannion, Clou-Blascan.
Okay. Lannion, pas Lannion.
Lannion. Lannion,
hein. C'était pas faux. Du
tagine. Il pense au tagine, Ali.
Il a tellement
faim.
Bouffé, Ali. Il a tellement la dalle.
Il voit les boulettes.
Lannion, pas le soir. Pas le soir.
Il est bon, des chemins. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, toi, Erwan?
Bah, c'est vrai que, vu l'équipe qu'on a sur le terrain, on aurait dû, on loupe complètement notre première demi-heure. Après, vu l'équipe qu'on a sur le terrain, on doit mieux faire. Il n'y a pas à dire. C'est vrai que ce soir, j'ai pas compris pourquoi Vainqueur a même pas été convoqué. Alors, c'est une recrue. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la recrue de Jardim, mais Vainqueur, je pense qu'il nous aurait peut-être fait du bien. Même si le dernier match à Guingamp en Coupe de la Ligue, il est expulsé au bout de 6 minutes. C'est d'ailleurs son premier match. Milieu de terrain défensif, j'ai trouvé un petit peu léger. Silva, Fabregas.
Ouais.
Surtout face à Guingamp, qui avait plus les crocs que nous ce soir. Nous, j'ai l'impression que bon, on n'a plus grand chose à espérer du championnat. On est, je dirais, pratiquement entre guillemets sauvé avec ce point du match nul, parce qu'on a fait l'écart avec le 18e.
Ouais.
Mais vu l'équipe qu'on a sur le terrain ce soir, on doit beaucoup mieux faire. 4 tirs cadrés dans le match, c'est pas suffisant.
Et je sais pas ce que t'en penses, Erwan. Je te demande, mais t'es pas un peu déçu par ce que fait Golovin?
Bah, il a eu un bon passage, j'ai trouvé en janvier-février.
Ouais.
Il était bon en janvier-février. Puis là, c'est vrai que depuis le mois de mars, je le trouve un petit peu en dedans. Il devrait prendre plus le jeu à son compte.
Il disparaît après, des matchs parfois.
Non, le problème, c'est que c'est pas un numéro 10.
Il veut
jouer électron libre alors que c'était un très bon joueur. Un petit peu à l'image d'un Ronnie Lopez, d'un Lemar qui joue un peu sur le côté, à deux.
Ouais.
Et là, par ses dribbles, et par ses centres et par ses frappes, parce qu'il a des trois bonnes frappes.
Ouais, c'est vrai.
Il apporterait plus.
Et là,
vouloir être de partout, il se perd un petit peu et il tourne un petit peu en rond, c'est dommage.
Ouais, par contre, Vinicius, j'aime bien. J'aimerais bien le revoir. Vinicius, je pense que c'est un bon joueur.
C'est un bon joueur, ouais.
Il est athlétique, mais techniquement, il est pas dégueu.
Il est costaud, il a de la frappe. Il est opportun.
J'aime bien.
Vinicius, ça demande à être vu.
Moi, ce que je me demande, et là, je me tourne vers Erwan et vers Nico, est-ce que pourquoi ce serait pas possible de me remettre Golovin sur un côté et de jouer à deux dans l'axe avec Gelson Martins qui jouerait plus recentré derrière un autre neuf?
Bon, franchement, il est meilleur dans le couloir.
Il est meilleur dans le couloir.
Il est très bon sur le côté.
Alors j'ai rien dit.
Il peut repiquer dans l'axe, mais il a une telle capacité de réaction.
Ouais, c'est pour ça que je te demandais.
Il lui faut de l'espace et il a cette capacité de dribble que tu as.
Alors,
sur
pour
le
moi,
côté,
c'est soit Ronnie Lopez, soit Golovin. Il faut trouver une autre solution au milieu de terrain pour produire plus. Parce que je te rejoins, c'est pas un numéro 10.
Non, mais t'as pas besoin de numéro 10. Si t'as deux joueurs de côté avec deux attaquants, Fabregas
et
Adria Silva, c'est entièrement suffisant.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a un problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ali. Je pense qu'il y a un problème de système et que Golovin comme ça, dans cette position-là, c'est pour l'instant contre-productif pour le joueur et pour l'équipe.
Non, le problème de cette équipe, c'est que comme la défense ne rassure pas du tout,
et ça aussi, ça en fait partie,
et qu'ils passent leur temps à reculer parce qu'ils défendent mal. Et dans les duels,
c'est les deux problèmes.
Le problème de l'AS Monaco cette problèmes. Année, ça a été le plus gros problème.
C'est les deux problèmes,
cette défense centrale. Parce que je pense qu'offensivement, t'as des armes pour faire la différence.
Ça reste, mais parfois, je trouve ça un petit peu brouillon. Tu sais pas vraiment qui doit prendre le jeu.
Ça change tout le temps.
C'est ces deux choses-là.
Tu sais pourquoi c'est brouillon? Parce qu'ils ont jamais eu, le quatuor offensif toujours les mêmes. Ça change tout le temps.
Ali, moi, j'espère juste une chose pour Monaco. C'est que Jovetic l'a joué. Il a marqué. J'espère juste une chose, c'est qu'il soit capable d'enchaîner au moins les matchs jusqu'à la fin de saison.
On va pas.
J'aimerais beaucoup parce que le fantasme que j'ai depuis que Jovetic est arrivé à Monaco, c'est de le voir associé dans l'axe avec Radamel Falcao, parce que c'est vraiment pour lui, pour le coup, oui, c'est vraiment son poste d'être attaquant de soutien.
Mais quand les deux sont à 100%,
j'aimerais vraiment le voir.
Le problème, c'est que il a jamais enchaîné depuis 6 ans.
On peut espérer, Ali. On peut espérer. Mais moi, j'espère vraiment parce que c'est un joueur qui est continent en forme, qui est un joueur frisson, c'est un joueur qui est délicieux. Mm-hmm. Et je me dis, tu vois, voir Gelson Martins d'un côté, soit Ronny Lopez, soit Golovin de l'autre, et avec Jovetic Falcao devant.
Ah, c'est très extraordinaire. À faire le 9.
Oui. Mais c'est là où il était très, très bon. On se rappelle, moi, j'adore la Fiorentina. À la Fiorentina, il était extraordinaire à ce poste-là. Mais vraiment,
c'est dès qu'il s'est blessé, cette grosse blessure.
En plus, hein. Il ressemblait au chanteur des Strokes avec sa coupe là.
Ça, c'était important, ça. Ouais, très.
Merci à Erwan d'avoir été avec nous, le supporter de Monaco au 32-16. Tiens, demain, vous savez qu'à 21h, il y a PSG Strasbourg, le PSG qui peut être champion demain après 31 journées. Alors, s'il s'impose et que Lille ne s'impose pas face au stade de Reims.
Exactement.
Rien à jouer aujourd'hui. Tiens, et Thomas Tuchel est aujourd'hui en conf de presse. Allez. Alors, est-ce un problème que le PSG soit champion si tôt? Réponse de l'entraîneur parisien.
Nous sommes forts et nous jouons une saison forte. Quand on gagne trop, tout le monde pense que les autres sont pas assez forts. Mais c'est pas comme ça. Et c'est pas notre fort. Et je ne peux pas penser que c'est mieux pour nous d'être champion plus tard ou quelque chose. Non, on fait notre chose et on joue cette saison pas en passe. Et l'autre chose, pour réfléchir de d'autres équipes et de la situation, c'est pas mon job.
Voilà, ça c'est une question qui est venue régulièrement ces dernières saisons. Alors le PSG avait déjà été champion après la 30e journée, il y a 2-3 ans de ça également. Vous trouvez que c'est un problème, vous, que le PSG soit sacré champion si tôt?
Non, c'est pas un problème. Et faut arrêter de minimiser le titre de champion ou le quand le PSG peut gagner la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, parce que ce sont des titres et tu ne les as pas comme ça. Et d'être champion aussitôt, ça veut dire que le Paris Saint-Germain a été très fort encore cette saison. Oui. En Ligue 1.
Ouais, mais est-ce que ça veut pas dire que les autres travaillent moins bien?
Ben, c'est ça, en fait.
C'est pas forcément une critique vis-à-vis du PSG.
Voilà. C'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain. Au contraire, bravo au Paris Saint-Germain. Il faut le souligner parce qu'ils ont banalisé l'exploit. Après, qu'ils soient champions, j'ai envie de te dire, c'est normal. Oui. C'est normal. Quand tu vois les moyens, quand tu vois, etc., tout ce qui est devenu le Paris Saint-Germain, on va pas crier, on va pas tirer notre chapeau et faire des galipettes parce qu'ils sont champions.
C'est champion si tôt, là.
Ouais, mais, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Il y a un thème. Mais là où je te rejoins, Nico, ce qui est grave, et là où c'est le problème, c'est que dans un championnat, quand tu vois que le PSG est champion la 31e journée, ça veut vraiment dire que certaines équipes, et là je pointe du doigt l'Olympique Lyonnais avec ses 250 millions d'euros de budget et l'Olympique de Marseille et sa saison catastrophique, et puis aussi dans une moindre mesure Monaco, tu te dis qu'il y a quelque chose qui déconne dans notre championnat, que les autres équipes travaillent très mal, Lyon on en a parlé, Marseille j'en parle pas avec leur président et leur coach qui n'ont rien à faire à l'Olympique de Marseille et à l'AS Monaco où il y a eu des atermoiements terribles, ça veut vraiment dire que ces clubs-là travaillent mal. Après, ce que je veux dire sur le Paris Saint-Germain, c'est que c'est un problème aussi pour eux, parce qu'on l'a beaucoup dit, mais d'être champion si tôt, ça veut dire que t'as pas d'adversité, et que quand tu te retrouves en Ligue des Champions à être un petit peu dans la merde, et ben t'as pas l'habitude, comme les clubs en Espagne, comme les clubs en Angleterre, où t'as un championnat qui est compétitif, où t'es habitué à jouer avec de l'intensité, avec de l'enjeu, sur plus de matchs. Donc le problème, il est aussi pour le Paris Saint-Germain indirectement, mais le PSG, s'ils peuvent être champions là, on va pas, bravo, hein, c'est tout, voilà.
Alors Thomas Tuchel, qui était donc en conf de presse aujourd'hui, il s'est aussi projeté en vue de la saison prochaine. On lui a parlé de Mercato notamment. Combien de recrues aimeriez-vous pour la saison prochaine, Mr. Tuchel? Réponse.
Ah, c'est difficile à dire parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe avec les joueurs ici. Tout le monde veut rester ou non, ou quelques joueurs veut changer un club. Et on doit réfléchir, mais je pense que aujourd'hui, je veux dire 3-4 joueur.
C'est tout. C'est pas beaucoup, hein.
En plus, c'était.
C'est pas
bien.
Beaucoup.
Attends, laisse-le, il rigole, Thomas.
3-4 joueurs, s'il n'y a pas de départ, 3-4 joueurs.
Ah non, mais Ali, c'est quoi le but du PSG? C'est gagner la Ligue des Champions. Donc là, ce qu'il faut faire au Paris Saint-Germain, c'est prendre un balai et mettre un grand coup, virer tous les mecs trop qu'on fait.
Donne-moi des joueurs.
Joueurs qui doivent partir?
Vas-y, allez.
Allez, Thiago Silva, c'est fini.
Alors, je vais t'expliquer un truc. Le jour où Thiago Silva va partir, t'as vu Ronaldo un petit peu au Real Madrid, il s'en sont rendu compte après. Ben le jour où Thiago Silva s'en va.
Ah mais comment tu peux comparer ça?
Attends,
mais
je déconne pas de maintenant.
Ronaldo il a gagné combien de Ligue des Champions? Thiago Silva est dessus, il est dessus en Ligue des Champions.
Non mais c'est pas.
C'est un train pour le club.
On parle du Real Madrid, on parle pas de. Je te parle au Paris Saint-Germain. Ce que fait Thiago Silva et moi j'y suis.
Thiago Silva c'est un plombe l'équipe.
On verra. Le jour où il partira, C'est là qu'on parlera.
Regardez Thiago Silva, c'est se tirer une balle dans le pied en Ligue des Champions.
Ben on en reparlera, tu verras.
Thiago Silva, il a pas
le mental. La défense.
Thiago Silva, il est responsable.
Toi, tu dis que Thiago Silva, il est aussi important au Paris Saint-Germain que Cristiano Ronaldo l'était au Real Madrid.
C'est genre que je crois en
bas. Je te pose la question,
oui, tu es en train de dire, je suis halluciné.
Ouais, mais sauf qu'il y en a un qui adore aller objectif, sinon pas l'autre.
Real Madrid. On parle du Real. Le PSG en Champions League.
Les gars, mais
le PSG en Champions League.
Mais Ali,
ces dernières années,
mais
il n'a pas existé.
Mais non, mais Ali,
parle pour de l'équilibre de l'équipe.
Mais Ali,
on parle pas de Champions League.
Je vais te dire un truc très simple. Cristiano Ronaldo dans les grands rendez-vous, que ce soit en sélection ou en club, il est là. Thiago Silva, que ce soit en sélection ou en club, dans les rendez-vous, il est nul. Mais en sélection, il était banni parce que il était banni.
Mais attends, c'est moi qui l'ai su, je te le dis.
Contre le Paraguay en Copa América, quand il fait encore la main là de totalement incompréhensible, oui, que le Brésil fait sortir en huitième, qui sort encore en pleurant.
Oui, mais c'était la main des dieux.
C'est plus possible. Thiago Silva, c'est plus possible.
Si
t'es un club qui veut gagner quelque chose, être présent donc là où ça compte, Thiago Silva, c'est terminé.
Thiago Silva,
c'est terminé.
Coupe du monde, il joue pas.
Le titre.
Enfin, l'image que beaucoup de Brésiliens de Palmeiras gardent. Bah non, mais voilà, c'est
l'émotion. Mais tu le sais très bien, Nicolas.
C'est pas débordé. Attends,
les
contre le Chili en Coupe du Monde quand il refuse de tirer son penalty.
Ils sont comme ça. L'un des seuls,
c'est
un
gars. Il y a des gars émotionnels dans tous les pays.
C'est comme si on dit tous les Portugais sont comme ça. C'est pas vrai. Mais non,
les Portugais, c'est différent au niveau caractère.
Mais
les Brésiliens, j'en ai connu beaucoup, moi.
Dunga, il était comme ça.
Ça fait combien d'années qu'il est en Europe, Thiago Silva?
Casemiro, il est comme ça.
Qu'est-ce que ça va avec l'Europe?
Non, mais attends. On a beaucoup reproché au Brésil ces dernières années d'avoir un jeu qui est trop européanisé et trop européen. Parce que justement, les joueurs, Thiago Silva, il est venu, il est arrivé en Europe très jeune. Il avait 17, 18 ans.
Du jeu.
Bah non, mais c'est que le mec, culturellement, il s'est imprégné de la culture européenne aussi.
Non, mais moi, je ne change pas.
Tu m'as dit, les Brésiliens, on sait comment ils sont.
Non, mais non. Quand on le voit être comme il est, lui, émotionnellement, il le dit, mais ça,
ben
mais
sur
le
problème.
Oui, bien sûr, on a fait un très
c'est
bon reportage d'ailleurs sur RMC Sport.
Exactement. Mais sur le terrain, moi, je l'ai vu, moi, sur le terrain.
Ah ouais.
Celui qui met les bouchons, c'est lui.
Ah ouais. Et contre Manchester United, il aurait terminé en tribune.
Jonathan,
arrête. Contre le Barça, on le sait maintenant, c'est lui qui fait redescendre toute l'équipe alors qu'il jouait haut. Il l'a dit.
Qui a dit?
Tout le monde l'a dit. Les joueurs l'ont dit. Même lui, il a dit à demi-mot qu'il avait senti qu'il allait jouer.
Et ça, tu le sais pas.
Thiago Silva, c'est Jonathan, terminé.
Jonathan,
c'est plus possible.
Quand tu joues sur un terrain, et ça, tu peux pas le savoir, c'est pas le libéro qui te fait descendre tout le monde. C'est l'équipe qui a peur.
C'est le leader.
Laisse-le finir. Non, c'est l'équipe qui a peur parce qu'elle se fait bouffer avec le ballon et tout le monde recule. Ce n'est ni le coach, ni le soi-disant capitaine libéro qui fait descendre tout le monde.
Alors, au foot en tant que professionnel, mais ce que je peux te dire en regardant les deux matchs catastrophiques du PSG contre le Barça et contre Manchester City, je pense que quand t'as un joueur du statut de Thiago Silva dans le 11 du Paris Saint-Germain et que tu es aussi important parce que t'es au club depuis longtemps, que t'as le brassard, etc., etc., et quand tu te fais dessus, que tu recules alors que tu dois avancer, que tu ne montes pas conquérant, et ben je suis désolé, tu transmets la peur au reste de l'équipe.
C'est pas toi qui recule quand t'es défenseur central.
Il a dit contre le Barça qu'il avait reculé.
C'est lui qui l'a dit. Le milieu de terrain recule.
Alors il ment. Il n'a pas dit on recule.
Quand le milieu de terrain descend.
Ali, il l'a dit. Jonathan, quand tes deux milieux de terrain descendent,
sur toi tu ne peux pas monter.
Ali, il l'a dit.
Il n'a jamais rien dit, Thiago Silva.
Mais sur Nicole.
Non. Il a jamais dit
Nico.
Même Marquinhos. Non, il a jamais dit Thiago Silva.
Marquinhos, c'est autre chose. Mais bon, attends.
Moi, j'ai une question.
Pourquoi?
Moi, j'ai une question, les mecs.
On verra quand il jouera plus.
Voilà.
Est-ce qu'il l'a dit?
Ouais, des conneries. Non, mais attends, pour oublier,
quand Thiago Silva ne sera pas là, on en reparlera. Voilà, c'est beaucoup plus simple.
Il n'y a pas de souci.
Moi, je le dis maintenant parce que je passe mon temps à regarder le Paris Saint-Germain. Je vais au stade. Il répare. Beaucoup plus que Marquinhos, donc il est portugais au final.
Voilà. Ali, moi je le dis depuis qu'il est arrivé, le Paris Saint-Germain ne gagnera pas la Ligue des Champions tant qu'ils joueront avec Thiago Silva. Voilà.
Mais on assume ce qu'on dit, et je le dis depuis au moins 4-5 ans. N'importe quel coach, n'importe quelle équipe qu'il y a, Cavani, Neymar, Mbappé, Di Maria, qu'est-ce qu'il dit? Je vais gagner la Champions League.
Et alors?
Et tu t'as l'impression qu'avec ces joueurs devant, ils peuvent à n'importe quel moment faire la différence.
Ils l'ont, ils la font ils ont besoin d'une défense qui est décoronée.
Ah, on en revient à une chose, t'as pas besoin qu'une défense, hein, parce que
pour
c'est pas que la défense.
Si.
Non, il te faut le tout.
Bah, il te faut le tout, mais la défense,
elle
faut le tout.
On n'est pas d'accord. Mmh. Dans quelques instants, on va revenir sur les chocs de la 31e journée de Liga.
Le voit à ce moment, Sergio Ramos.
La victoire, les gars, attention. La victoire du Barça 2-0 face à l'Atlético de Madrid. Et puis, le classiqueur, le classique allemand entre le Bayern et Dortmund avec David Lortola. Fred Hermel sera là juste après.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Jonathan McCarty et d'Ali Benarbia, 31e journée de Ligue 1 ce soir et cet après-midi. Cet après-midi, ça a débuté par une surprise. Lyon s'est incliné 3-1 face à Dijon, 1-1 entre Guingamp et Monaco. Amiens-Saint-Etienne 2-2, match spectaculaire entre Angers et Rennes 3-3. Et puis Nîmes qui a battu Caen 2-0. Il y avait également de belles affiches à l'étranger. Tiens, je vous en donne quelques-unes en Italie. La Juve a battu Milan 2-1. La Samp s'est inclinée à domicile 1-0 face à la Roma. On y reviendra dans quelques instants. Le RB Leipzig s'est imposé à Leverkusen 4-2. Le Bayern a battu Dortmund 5-0. On y sera, on y reviendra dans quelques instants avec David Lortolari. Mais avant, la Liga Española avec notre Fred Hermel d'amour. Ah. Rebonsoir Fredo.
Oh, c'est gentil.
Oh, tu m'avais manqué mon gars, ça fait longtemps.
Oh bah ouais, hola chicos.
Salut Fred.
Salut Fred.
Le Real qui a battu Eibar 2-1 cet après-midi. Valence qui s'est incliné face au Rayo Vallecano 2-0 à Madrid. Et puis le Barça ce soir qui a battu l'Atlético 2-0. Le Barça qui est à un poil d'être champion d'Espagne.
Un poil de barbe de Nico.
Non, je pense que c'est Nico, c'est trop long comme poil.
C'est trop long.
C'est trop long, c'est-à-dire c'est le Barça est à un tout petit poil d'être champion, c'est vraiment pas grand-chose.
Ouais,
d'accord. Ouais, 11 points d'avance, le goal average particulier, donc c'est comme si c'était 12 points, alors qu'il reste 7 journées. Que l'Atlético reçoit Séville, que l'Atlético reçoit Valence.
Merci voilà, Costa. Non,
ouais. Voilà, bah, c'est ça, je pense que... alors déjà, bon, on va dire la victoire, 2 buts, on va préciser les buts en fin de rencontre de Suarez, une magnifique frappe du droit, vraiment, qui touche le poteau à l'intérieur et qui rentre, et puis Messi qui s'amuse dans la surface. Voilà, on a un Barça qui en plus... moi, je suis persuadé que le Barça va gagner avec des champions et le match de ce soir, c'est un avantage énorme. C'est-à-dire que le Barça peut faire tourner à partir de la semaine prochaine dès qu'il veut, mais vraiment beaucoup, beaucoup tourner parce qu'il peut se permettre de perdre quelques points pour mieux préparer ses matchs de quart de finale, de demi-finale et voire de finale. Et j'ai eu vraiment le sentiment ce soir qu'après cette connerie de Diego Costa, à 28e minute où il insulte l'arbitre, il s'est expulsé, le Barça a préagéré en disant, de toute façon, l'Atlético va, qui fait pas mauvais match, l'Atlético, hein, d'ailleurs, hein, mais qui a discuté.
À un moment, on pensait même qu'il marquerait, non?
Ouais, ouais, vraiment, à un moment, juste avant le but de Suarez, qui est vraiment un exploit personnel, il y a eu quand même quelques occasions de l'Atlético, en tout cas des mouvements offensifs assez dangereux, mais la fatigue aidant, le Barça savait qu'à un moment ou à un autre, ils allaient avoir leur occasion et il y en a eu deux, ils ont mis 2 buts quoi. Donc c'est même à Barça ce soir qui a un peu géré le physique en pensant au match de Ligue des Champions de mardi à Manchester quoi, contre l'United. Voilà, donc c'est tout bénef pour le Barça quoi.
Fred, vraiment, moi je vais vous poser une question sur l'Atlético. Est-ce que t'es pas inquiet toi pour le prochain cycle de l'Atlético, parce que quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes l'absence de résultats et quand tu regardes le contenu qui continue d'être parfois un peu compliqué. Là, je trouve que l'Atlético a quand même si on était enthousiaste, on s'était parlé avant que la saison reprenne sur le mercato qu'ils avaient fait. Au final, il y a beaucoup de déceptions et beaucoup d'argent qui a été investi. Bah, est-ce que là, j'ai l'impression que c'est un peu, ça va être une intersaison un peu charnière pour eux, quoi.
Et ben la question de Griezmann qui se pose, parce qu'on sait que qu'Antoine se pose des questions. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président Cerezo, qui lui pense qu'il va rester. Il dit, il a pris un coup sur la tête avec l'élimination contre la Juve, mais bon, il va vite revenir à la raison, quoi. Voilà, il est dans un, il a des doutes.
Il n'y a pas de Griezmann, Fredo. Hein, là,
Lucas. Ouais, mais je termine sur Griezmann parce que on sait que le Barça le voulait il y a un an, qu'il a failli signer, et que là, il y avait de nouveau. Quelques conversations et le public du Camp Nou a bien fait sentir à Griezmann qu'il n'était pas le bienvenu. C'est pour ça il a été sifflé ce soir.
Ah bon?
Il y a eu des chants contre lui. Oui, bien sûr. Oui, c'était voilà. Et tous les sondages faits par les médias de Barcelone montrent que
pourquoi
que Griezmann, bah parce qu'il les a plantés l'an dernier à la dernière minute quoi. Voilà et beaucoup et notamment vous vous souvenez de
Carlos Trichard. Surtout il y a la mise en scène, il y a toute la mise en scène.
Voilà,
de cul piqué, machin. Ouais.
Et Carlos Recha, qui était un joueur important au Barça, ouais, qui était l'adjoint de Cruyff sur le banc du Barça, a fait une déclaration disant le Barça, c'est faut prendre le train à l'heure, quoi. Sinon, un an après, c'est trop tard, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui s'élèvent contre une possible nouvelle négociation entre Griezmann et le Barça. Donc, on peut dire qu'il est en terrain hostile aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, le match ce soir, l'accueil était important par rapport à ça, et l'accueil a été extrêmement défavorable pour Griezmann. Et puis, je réponds à ta question, mon ami Joe, Nathan, Jonathan, Godin va partir à l'Inter, Lucas Hernandez, pour moi, le meilleur défenseur central dans 2-3 ans, part au Bayern, Griezmann qui se pose des questions, voilà. Après, c'est vrai que quand je regarde le match de ce soir, l'Atlético a vraiment le niveau, quoi. C'est un bon match de l'Atlético, finalement, quoi. J'aurais vraiment voulu les voir avec Diego Costa une heure de plus sur la pelouse, quoi. Mais bon, ça n'a pas été possible.
On va accueillir Hicham, supporter du Barça, qui nous a appelé au 32-16. Bon, salut Hicham.
Bonsoir à tous, bonsoir Nico, John, Ali et à l'immense Fred Hermel.
Puisque Fred il faisait référence là, toi tu kifferais de voir Griezmann au Barça ou pas?
Ouais, le joueur, j'adore le joueur, je suis un grand fan de Griezmann, surtout que Suarez
qui n'aime pas Griezmann.
Termine en 2021, donc je vois pas du tout le Barça prolonger, lui Suarez. Donc ça ferait une sorte d'année de transition l'année prochaine avec Suarez, Dembélé et Griezmann qui prendrait la place de Suarez. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce qu'il a fait l'année dernière, ça va être compliqué de faire accepter ça aux socios. Mais le joueur qui refuserait Griezmann.
Ah, bien sûr.
Bon, ouais, sinon, c'est un joueur. Enfin, ce soir, Griezmann fait un très bon match, mais il est gêné parce que Costa n'était plus là, donc il avait plus ce numéro 9 de
référence de Costa
dont il a besoin devant, quoi. Donc ça, c'est
donc s'il va à Barcelone, il aura besoin de sorte de point d'appui.
Ouais, quand même, parce que j'écoute ce que dit Echa, mais Griezmann en pointe, c'est vraiment pas son truc.
Quoi. Non, il faut qu'il soit accompagné.
Tu vois pas la David Villa époque 2011 avec Messi en faux neuf, Dembélé qui colle.
Mais Messi veut plus jouer en faux neuf. Messi, il aime
bien
trop
libre.
C'est
pas le même Messi.
Non.
Ouais.
Fait moins de
Messi aime bien la liberté qu'il a. Là, il a.
Je vois pas où il jouerait au Barça en fait, dans le système.
Après là, il aurait le ballon, donc.
Oui, ça c'est bien ce que dit Cham. Et je pour prolonger ta pensée, il y a quand même une certaine frustration chez beaucoup de joueurs de l'Atlético en disant on aimerait bien avoir un peu plus de chance de jouer au foot, quoi, voilà, parce que et c'est ce soir finalement où l'Atlético a joué son va-tout que Simeone dans ses changements c'est-à-dire qu'il y a un expulsé Diego Costa, il fait sortir un latéral et il met Correa.
Même dans la composition d'équipe, quoi. La composition elle est pas frileuse du tout, hein, le milieu avec Rodri, Partey, Coquet et Saúl, il y a du ballon, hein.
Arias
et Philippe Luiz comme latéraux qui sont des latéraux qui sont offensifs.
Hicham, puisque on est à peu près tous d'accord pour dire que la Liga est pliée, est-ce que comme Fred, toi tu vois le Barça remporter la Champions cette année?
Alors honnêtement, si Valverde vraiment ne fait pas des choix frileux, puisqu'on a vu que nos meilleurs matchs, c'est quand on a décidé de prendre le jeu à notre compte, qu'on a vraiment pressé, c'est possible. Maintenant, s'il se remet à mettre des côtés avec deux latéraux, Sergi Roberto, Semedo, quand il va affronter une grosse équipe, je pense qu'on peut le payer, contre Liverpool notamment en demi, si la logique passe. Maintenant, avec Messi, tout est possible, hein. Messi... depuis qu'il a commencé en pro, il est à 10 championnats. 10 championnats de gagnés sur 15 ans.
Il est dans l'état
sur les
de
dernières
grâce,
années, il y en a 8 sur 11. Mmh. Donc,
et s'il remporte le 11e, d'ailleurs, ce sera un record dans l'histoire du Barça, je crois.
Surtout, ce que je vois, Hicham, c'est un Messi totalement libéré sur le terrain. Il est bien, quoi. C'est-à-dire qu'il fait tout. Alors déjà, qu'il fait tout facilement, mais là, en plus, il le fait avec bonheur.
La différence, elle est tellement flagrante avec le match qu'il a fait avec l'Argentine là. C'est incroyable.
C'est pas le même contexte aussi.
Dans le sourire, tu vois, dans les expressions.
C'est-à-dire que lui, il est pas heureux quand il joue avec l'Argentine.
Il l'a dit d'ailleurs.
Et Fred et Hicham. Ouais, bien sûr. Moi, il y a un joueur que j'ai trouvé très bon ce soir encore, c'est Clément Lenglet qui a définitivement, il me semble, pris la place de Samuel Umtiti, ce qui pose quelques questions pour
Didier Deschamps. Je pense qu'il va partir.
Puisqu'on parle de français, Fredo, parlons également du Real. Merci d'ailleurs Hicham, qui s'est imposé 2-1 face à Eibar. Eibar qui menait 1-0, doublé de Benzema.
C'est ça dont je voulais lui parler.
Benzema qui en est à 6 buts en 5 matchs d'ailleurs. Il est on fire.
Fred, je sais que tu fais une pause sur Twitter. Mais moi j'ai posté cet après-midi, j'ai dit même Fred Hermel ne rend pas hommage un hommage assez appuyé à la saison que fait Benzema. Il est extraordinaire là en ce moment.
Il a plus besoin que je le défende, les gens tout
le
monde.
Il est fantastique.
Il joue son poste d'avant.
Alors on va résumer un peu ce match, première période mais immonde,
catastrophe
du Real, mais en plus il pleuvait, il faisait froid, mais vraiment c'était nul,
ça faisait
chier d'y être. Les gens, le stade à moitié vide ou à moitié peint, c'est selon, mais voilà, à Bernabéu il manque 40 000 personnes, je peux te dire que ça c'est moche, hein. Vraiment c'était horrible. Et puis Benzema, il a la gagne. Il refuse la défaite, il se défonce, il est encore capitaine aujourd'hui puisque Ramos et Marcelo étaient absents, et on a vu vraiment un Benzema qui a la légitimité de celui qui porte le brassard, quoi. Il a refusé la défaite et c'est lui qui conduit vers une victoire in extremis. Benzema ce soir, c'est 2 buts annulés avec le VAR pour des hors-jeux, 2 buts marqués, une erreur. 2 buts loupés, voilà. Donc, enfin, c'est, il a été tout près du hat-trick, voire du quadruplé ce soir, quoi. Donc, et puis dans le jeu, il est extraordinaire. Donc, voilà, Benzema fait de loin sa meilleure saison au Real Madrid, et il est sans aucun doute, et même les opposants à Benzema le reconnaissent, le meilleur Madrilène de cette saison. D'ailleurs, le seul qui a maintenu la tête hors de l'eau depuis le début de cette saison.
Alors, d'ailleurs, t'as parlé avec Zizou à la fin du match, Monfredo, qui s'est confié à ton micro et qui a parlé de Karim Benzema. Justement, on va l'écouter, Zinedine Zidane.
Karim, il fait une grande saison et avec ses buts, peut-être que ça change en fait la réaction, voilà, la perception de tous les gens. Mais Karim, il a jamais changé. C'est toujours le même joueur. Et par contre, ce que j'ai envie moi de sortir de ce match en fait, ou en tous les cas du match de Karim, c'est parce qu'aussi les copains l'ont bien accompagné en deuxième mi-temps.
Alors moi j'ai une vraie question pour toi Fredo, parce que là il est déjà en train de préparer la saison prochaine. Zizou. C'est quoi son plan pour l'attaque? Il veut faire. Alors on a parlé d'Hazard, on a parlé de. Voilà, il y a plein de noms qui ont été évoqués pour.
Hazard, c'est quasiment fait. Okay. Ça devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Donc ça, il y a pas.
Parce que seront qui les tauliers devant la saison prochaine alors au Real?
Ah mais il est évident que Benzema va avoir la concurrence d'un autre numéro 9, c'est sûr.
Oui.
Mais Benzema en jouant comme ça, je peux te dire qu'il intéresse le bête bonheur, celui qui va lui prendre sa
place.
Exactement.
Ouais,
mais Benzema a joué tous les matchs, donc aussi Benzema a besoin de s'imposer. C'est-à-dire que quand il joue toujours avec cette protection pour le doigt cassé, le petit doigt cassé à sa main droite, qu'il n'a pas pu opérer parce que le Real avait besoin de lui, parce qu'il n'y avait pas de remplaçant. Donc ça aussi, c'est il a besoin d'un autre pour la concurrence, qui est toujours importante dans un club, mais aussi pour pouvoir se reposer un coup de temps en temps, quoi. J'insiste là-dessus, mais c'est la réalité. Le Real pense qu'Mbappé peut venir. Et Mbappé avait envie de venir. Donc, le projet, c'est Mbappé. Moi, tu me poses la question, tu me dis quel est le projet du Real en attaque. C'est Mbappé, Hazard. Hazard, c'est quasiment fait. Si je te dis, c'est dans quelques semaines, ça sera annoncé.
Eriksen.
Ouais, mais négocier avec Tottenham, c'est trop compliqué.
Ouais. Mais ils l'ont déjà fait.
Ouais, mais non, mais
Modric, à 100 millions, non, les gars, à 100 millions.
Ouais,
bah,
non, mais le problème d'Eriksen, c'est que Dani Levy, le président, va tirer ça jusqu'au 31 août à la dernière minute.
Okay,
et le Real Madrid, non, il faut commencer tôt. Voilà. Si Zizou a accepté de revenir au mois de mars,
c'est pour
et de se taper des matchs de merde comme aujourd'hui face à Eibar, c'est pour justement préparer la saison. C'est pas pour signer un contrat le 31 août à 23h58.
Quoi. Tu penses, Fred, qu'il peut récupérer Rabiot ou pas?
En tout cas, le Real s'intéresse. C'est franchement.
Ouais, il est gratos, le mec, quoi.
Ben, il est gratos.
Non, et puis il est bon.
Il est bon, il est gratos. Et surtout, le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real, Modric, ce soir, il fait un match.
Qui joue à la place de Casemiro?
C'était Fede Valverde, là. Fede, un jeune Uruguayen. Modric, ce soir, ça m'a fait mal de le voir comme ça parce que il a fait un match pathétique, vraiment. Et on sent que.
Mais lui, va se barrer ou pas, tu penses d'ailleurs? Alors, je pense pas. Au départ à l'Inter, les
Ouais,
années,
mais donc Zizou est revenu.
Je pense que Kroos va partir, mais je pense que Modric va rester pas pour être un titulaire incontournable, mais pour être une garantie sur le banc. Tu sais, dans un match, tu fais rentrer Modric à 20 minutes de la fin pour garder le ballon.
Bien, ouais. Mais lui, il a bien ça, mais Montréal. Mec, il était ballon d'or il y a quelques mois.
Ah oui, mais enfin, il va avoir 34 ans aussi.
Adrien Rabiot, s'il va au Real, moi, je continue de dire, c'est pour jouer en 6.
Pogba va venir, donc... Enfin, il y a de grandes chances que Pogba vienne. C'est pas ça, c'est au contraire, Hazard c'est quasiment fait. Pogba c'est pas fait, mais on sent que c'est.
Quoique, tu me diras, Fred, une attaque Hazard, Benzema, Mbappé, c'est pas mal.
Mais Mbappé rêvait pas. Hein. J'ai du mal à voir le Paris Saint. Je doute pas que le Real le veuille, hein, mais j'ai du mal à voir le Paris Saint-Germain le lâcher.
Non, mais le truc c'est pas simplement que le joueur, c'est que le joueur a envie de venir.
Ouais, il y a ça qui peut jouer aussi. Effectivement.
Après le PSG, mais est-ce que tu penses que le Qatar, c'est très compliqué. Ouais, mais ça c'est l'éternel débat. Bah ça je sais pas, et personne ne le sait. Là il y a c'est-à-dire que il y a une volonté commune au même moment entre le Real et le joueur. Et ça le Real espère mais le faire cet été.
Le Qatar, c'est, je
pour
sais
finir, vas-y.
Pour finir, c'est pas pour tout mélanger, mais on sait pourquoi Neymar a été acheté par le Paris Saint-Germain. C'était au moment de la crise que qatarienne vis-à-vis de leurs voisins, l'embargo, etc. Et c'était plus un objet de soft power politique. Mais bon, Ali, bon bref. Et là, je pense que le Qatar n'étant pas totalement sorti d'affaires entre guillemets, je pense que c'est important pour eux de garder ces deux étendards que sont Neymar et Mbappé, du moins encore une saison.
Oui, mais après, Varane, qui a vraiment envie de partir, je vous écoutais parler de Thiago Silva, et si dans la transaction, il y avait Varane?
C'est pas un patron, est-ce que c'est un patron, Ali, Varane?
Non.
Voilà,
non.
Donc ça serait pas
bon. Mais je te parle, mais il a une bonne image quand même, Varane.
Non, très bonne image.
Ouais, mais c'est pas Mbappé.
C'est un super joueur.
Mbappé, il a fait la une du Times, tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Oui, mais
à chaque fois, il me revient avec ça.
Ouais, mais Mbappé, c'est Mbappé.
Faire la une du Times.
D'accord, mais le Times, tu crois qu'ils ont quelque chose à foutre quand ils mettent Mbappé en une, de savoir si le mec il est bon sur le terrain ou pas?
Mais en termes d'image, pour le Paris Saint-Germain, c'est important.
Non, mais d'accord, mais.
Oui, mais si Mbappé a vraiment envie de venir, pour venir au Real. Si le Real,
Et le Real, ils vont pas acheter Mbappé parce qu'il a fait une du Times, c'est ça que je veux dire.
Le Qatar ne le laisseront peut-être pas partir parce que justement, il a fait la une du Times.
Ça, c'est autre chose. D'accord. Et là, on revient à ton côté soft power politique.
Non, mais je veux dire, à un moment, il y a, dans, quand, s'il y a une négociation, si le PSG sent que il faut vraiment se battre pour retenir Mbappé, il y a des arguments aussi avec des joueurs au Real Madrid qui pourraient intéresser le PSG.
Lesquels?
Dont, je pense, Raphaël Varane.
Ouais.
Sinon, le Real, je dis pas qu'il faut... Non, bien sûr, il a fait la une du Times.
Mais sincèrement,
t'es con, je te parlais du côté.
Mais je déconne, ça y est, les
joueurs. Je vois mal vraiment le PSG se séparer de Mbappé. Beaucoup
et de Neymar.
Non.
Alors, on y va, il y a Neymar, Mbappé. Fredo, merci beaucoup mon Fredo. Bisous Fredo. Salut, merci. Ciao, Fredo. Et donc, dans quelques instants, c'est David Lortolari qui sera avec nous pour nous parler de la claque du week-end. Le Bayern, qui était deuxième de Bouli avant le choc face à Dortmund, s'est imposé 5-0 face au Borussia. Explication de David Lortolari, juste après ça.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardi, on était avec Fred Hermel il y a quelques instants, on est revenu notamment sur la victoire du Barça face à l'Atlético 2-0, la victoire du Real également 2-1 face à Eibar avec notamment un doublé de Karim Benzema. Sachez que Zizou s'est exprimé au micro de Fred Hermel.
Et il y a les copains.
Oui, bah,
les copains.
C'était un match important.
Les copains.
28e journée de Bundesliga. L'Eintracht Francfort qui a encore gagné 2-1 face à Schalke 04. Le RB Leipzig qui est allé gagner 4-2 à Leverkusen. Et alors, c'était le choc que tout le monde attendait en Allemagne. Le Bayern, deuxième au coup d'envoi de cette journée, s'est imposé 5-0 face à Dortmund. David Lortolari est avec nous. Bonsoir, mon Lorto.
Allô, Freunde. Salut à tous. Good colossal.
Salut.
Colossal. Alors, il paraît que t'as envie d'ouvrir avec une nouvelle, là. Ça vient de tomber. Pif, paf, pouf, du côté du Bayern. Va y avoir un nouveau président?
Oui, alors, c'est une information, qu'on peut livrer dans l'after ce soir. Je peux vous confirmer ça. C'est une information qu'on devinait. Oliver Kahn va entrer dans le directoire du Bayern. Génial. Pour évidemment devenir à terme, à moyen terme. Il ne précise pas encore à quelle date exactement, sera-ce 2021, sera-ce 2022, mais Oliver Kahn va devenir le président du FC Bayern, il l'a confirmé ce soir. C'est une information qu'on devinait, qui commençait à circuler sérieusement dans la presse en Allemagne, et que je vous confirme ce soir en exclu française.
C'est chouette.
Et ils aiment bien les anciens joueurs au Bayern en tout cas. Ils savent les choyer les mecs.
C'est ce qui fait la force du Bayern.
Pas tous les anciens joueurs.
Oui, alors
Oliver Kahn, c'est une stature.
Bah non, mais comme l'était Rummenigge, comme Beckenbauer,
Que de stature.
Sadio Mizic, enfin voilà.
Alors il y en a d'autres d'ailleurs. Il y en a d'autres qui ont essayé aussi de grimper un peu dans la hiérarchie du club. Il y a Mehmet Scholl qui a été entraîneur chez les jeunes notamment. Il y a Paul Breitner aussi qui a eu différentes fonctions à l'intérieur du club. C'est vrai que c'est un club particulièrement traditionnel avec respectueux de ses anciens surtout. Et très intéressant pour le match de cet après-midi.
Alors
avec cette victoire.
Comment tu l'expliques là, ce 5-0 là?
Eh ben, écoute, justement, Oliver Kahn a dit le Bayern sait aborder ce genre de match. Et je crois que c'est une phrase qui veut dire beaucoup. C'est-à-dire que oui, il y avait un Niko Kovac, l'entraîneur, qui avait beaucoup de pression. C'est vrai que Niko Kovac n'avait encore jamais, avec cette équipe du Bayern, remporté un grand match cette saison, finalement. Il avait échoué contre l'Ajax, 2 matchs nuls. Il a échoué contre Liverpool. Il avait échoué à l'aller contre Dortmund, à Dortmund, une défaite 2-3. Et bien là, il s'est libéré, Niko Kovac, avec son équipe. Il a été porté, ce Bayern, par une équipe qui a fait une démonstration de puissance. On a senti dès les premières minutes que le Bayern était susceptible de marcher sur Dortmund, vraiment. Et c'est ce que Lucien Favre, d'ailleurs, côté Dortmund, a confirmé à la fin du match. Il a expliqué que le Bayern était plus rapide, plus fort aujourd'hui. Bon, les compos d'équipe, à la limite,
c'était
voilà,
surprenant, hein, par rapport à ce que tu nous avais annoncé hier.
Un petit peu, c'est vrai, côté Dortmund notamment, Götze n'était pas titulaire.
Et côté Bayern aussi.
En pointe. Côté Bayern, bon, ça avait quand même de la gueule, hein. Il y a pas beaucoup d'absents.
Il avait mis Ravi Martinez au final.
Alors voilà, finalement, Ravi Martinez, effectivement, était titulaire. Il a fait partie des tout meilleurs ce soir. Voilà, je voudrais en présenter 5 qui ont été vraiment excellents ce soir. Les 2 milieux défensifs, côté Bayern. Oui. Ravi Martinez et Thiago, ça a été vraiment un délice. Mats Hummels, très intéressant en défense, alors qu'il est si critiqué depuis quelques temps. Il a marqué son premier but depuis l'automne 2017. Mats Hummels, c'est lui qui ouvre le score pour le Bayern en début de match, de la tête. Bayern qui a été très fort d'ailleurs sur coup de pied arrêté. Ouais. Donc ces trois-là très bons. Et puis devant, il y a eu un Serge Gnabry très fort aussi. Et puis Lewandowski qui marque ses 200 et 201e but.
Il était énorme.
De sa carrière. C'est important parce que je le répète ces derniers jours, on en a parlé de ce record. Il n'y a que 5 joueurs, Lewandowski compris, hein, dans toute l'histoire de la Bundesliga qui ont dépassé cette marque, dont bien sûr Gerd Müller, dont Klaus Fischer, d'autres un tout petit peu moins connus, mais Lewandowski est bien sûr le premier étranger à franchir cette joueur étranger.
Et Müller a été pas mal aussi, hein.
Müller a été très bien aussi, positionné derrière Lewandowski, passeur décisif du gauche, délicieux.
C'est là où je l'aime bien moi, comme ça là, en soutien de
oui, en attaquant Hengenspitze, on dit une espèce de 9,5.
Comment tu dis?
Hengenspitze.
Ah oui, bien sûr.
C'est comment dire désolé, ouais. Accroché à la pointe, ça veut dire ça, littéralement.
Accroché à la pointe. Tu parles allemand toi?
Tu peux.
Sans décoller. Mais d'où tu parles allemand toi?
Je fais un deuxième langue, je prêche à une bicienne.
Il est pas mal, Ali. Il est très très bien.
Sais,
même
le seul mot que je connais, à part cartoffel salade, c'est que le surnom de Müller, c'est architecte, ça veut dire c'est Raum d'auteur.
Oui, alors ben.
Dis bien.
Vous êtes pas mal là, ce soir.
Non mais dis-le toi, David, voir comment on dit.
Raum d'auteur.
Raum d'auteur.
Il faut prononcer toutes les lettres en allemand. C'est la règle principale.
Mais il y en a beaucoup des lettres, c'est ça qui roule en allemand.
Ça oui.
Tiens, et juste un truc, parce que tu parlais de Kovac. Est-ce que là, il s'est sauvé, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs. Tu le disais tout à l'heure, qui annonçait impossible départ. Oui. Tu penses que là, c'est bon si les champions ils restent ou
match. Très important, effectivement, bien au-delà des 3 points ce soir, bien au-delà du simple point que maintenant le Bayern a d'avance sur Dortmund, il y a un impact psychologique énorme qui va être côté Dortmund très dur à digérer, et l'entraîneur l'a confirmé, le capitaine Marco Reus aussi était marqué à la fin du match, mais côté Bayern, évidemment, ça va avoir beaucoup d'impact aussi, parce que, effectivement, Kovac était un peu sous pression de ses supporters. Une forte minorité des supporters voulait clairement une défaite du Bayern ce soir. J'ai pas dit une majorité, hein. J'ai dit une forte minorité. Parce que Kovac, on estime qu'il a pas assez d'expérience, qu'il a pas assez de clairvoyance tactique, qu'il a pas le niveau. Ses présidents aussi commençaient à regarder de très très près ce qu'il faisait, et là évidemment ça va lui offrir quand même beaucoup de répit, sachant qu'en plus, vous avez remarqué que le Bayern a eu du mal cette semaine, mais c'est quand même qualifié en demi-finale de coupe. Tirage au sort ce dimanche à 18h. Et donc, 2 titres possibles encore. Des titres nationaux, c'est vrai. Ce sera jamais suffisant à Munich. Mais ça donne quand même clairement une bulle d'oxygène à Niko Kovac qui peut envisager sereinement. D'ailleurs, il était serein en conférence d'avant-match. Il était serein en conférence d'après-match. On a l'impression quand même qu'il est capable d'accepter toute cette pression. Il peut s'imaginer maintenant clairement une deuxième saison à Munich, effectivement.
Tiens, on va accueillir Andrea pour évoquer un peu Dortmund également. Salut Andrea.
Bonsoir l'after.
Salut Andrea. Alors Andrea, comment tu l'expliques toi la piquette, là, la claque d'aujourd'hui face au Bayern?
Comment je l'explique? C'est un peu compliqué, on va dire. Comment vous dire, j'étais passé chez vous en début de saison pour vous dire, parce que tout le monde s'enflammait un peu de notre début de saison en Bundesliga,
En même temps, il y a eu 11 points d'avance à un moment, je crois.
Voilà, exactement. C'est vite enflammé. Et j'avais dit justement sur RMC là que fallait pas s'enflammer en fait, parce que le Bayern Munich, voilà, on les connaît. Nous, on a une jeune équipe. C'est ce que j'avais dit. Voilà, je m'en souviens très distinctement que voilà, nous on a
c'est
une,
bien de le rappeler.
Trop jeune, il y a pas assez d'expérience dans cette équipe. Moi, voilà, ce que j'ai souligné là, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est le désarroi, quoi. Surtout en deuxième mi-temps, le manque d'agressivité, de caractère, si vous voulez. Il manque un joueur, style, je sais pas, vraiment un joueur dans le milieu défensif.
Sébastien Kehl, l'ancien capitaine.
Il manque quelque chose, en fait, si vous voulez. Le Bayern, il joue à la passe à 10 toute la deuxième mi-temps. Moi, j'ai pas compris. Il n'y a pas eu de révolte. Il n'y a pas un joueur qui s'est révolté. Et ça, c'est quoi? C'est la jeunesse. C'est ce que j'avais dit en début de saison. Donc voilà. Donc, je m'attendais pas, évidemment, à une claque pareille. J'en suis encore marqué, d'ailleurs. Mais c'est prévisible, quoi. La défaite est là. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi.
T'es en train de couper des bûches ou quoi là, Andréa là?
Quoi?
Il casse son portable. Non, le mec, il est en train de péter un truc à côté.
Ouais, non, c'est pas ça.
C'est nerveux. L'énervement. Ouais, mec, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous.
Non, mais j'ai vraiment été marqué par cette défaite en tant que supporter du Borussia Dortmund.
Allez, calme-toi. Il est en train de péter une table ou un truc comme ça là.
Ou taper sur son gamin.
Mais toi, t'es complètement barré, mon pote, je te jure. T'es pas fini, toi, au fait.
Bah non, c'est ça le problème.
T'es complètement cinglé, ça. Merci, Andréa, d'avoir été avec nous. Fais pas de conneries, Andréa.
Non, si jamais
si tu psychotes, t'appelles le 32-16.
Non, bah, y a pas de soucis.
Voilà, Adrien est là pour t'accueillir, tu le sais, psychologue, tout le tralala, quoi.
Non, mais c'est comme le mec, là, qui est à Glasgow, qui voulait suicider pour que Brennan, qui
revienne, ouais.
Ouais, pour que Brennan Rodgers revienne.
On remercie Andréa, David. Andréa. Merci, oui, mon gars.
Il y a quand même un argument en faveur des supporters de Dortmund, quand même, c'est qu'il reste 6 journées et les deux calendriers qui concernent les deux équipes sont à peu près équivalents. Il va y avoir des matchs compliqués pour le Bayern, notamment à Leipzig et contre Francfort, et des matchs compliqués aussi pour Dortmund, notamment à Mönchengladbach. Donc les choses sont encore jouables, même si évidemment un Bayern qui est devant à 6 journées de la fin, dans l'histoire du championnat, c'est très très rare que le Bayern se soit fait rattraper.
Et puis l'expérience, hein, David. Hein.
Bien sûr.
Bon, Lorto, bisous, à bientôt.
Bonne nuit à tous.
Merci David, merci d'avoir été avec nous.
Merci,
rappelle victoire 5-0 du Bayern face à Dortmund, 28e journée de Bundesliga. Je vous rappelle les résultats de ce samedi en Ligue 1. Cet après-midi, Lyon s'est incliné à domicile 3-1 face à Dijon. Un partout entre Guingamp et Monaco, match important pour le maintien. Amiens qui a fait match nul 2-2 face à Saint-Etienne. Amiens qui a longtemps joué d'ailleurs à 10 contre 11. Et Saint-Etienne qui a égalisé en toute fin de match. Match de taré entre Angers et Rennes, 3 partout au final, avec notamment un doublé d'Atem Ben Arfa et de Rennes Adelaide, c'est du côté d'Angers. Et puis Nîmes qui a battu Caen 2-0. Et du coup, on retrouve en bas de tableau Dijon 18e avec 24 points, Caen 19e avec 23 points, et puis Guingamp dernier avec 23 points également. On a Saint-Etienne qui est 4e avec 6 points de retard sur Lyon qui est 3e et avec 2 points d'avance sur Marseille qui est 5e. Demain, il y aura une belle affiche, notamment entre Lille et Reims, qui sera à suivre sur RMC, bien sûr.
Beaucoup d'enjeux pour le podium et pour la place d'Europe.
On pourra battre le record de but, hein, si ça continue.
On pourrait. Merci beaucoup, Jonathan McCarty. Merci à Ali Benarbia. Merci Cyprien Bétou qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à Daniel Torres également. Merci à Adrien qui était au standard. Merci à toutes et à tous. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Bisous, bonne nuit. Ciao, ciao.
RMC. L'After Foot.